Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Puisqu'Alexandre Astier nous sert de fil rouge cette semaine à l'occasion de la sortie le 21 juillet du très attendu Kaamelott au cinéma, nous avons eu l'idée de décliner jour après jour les divers talents de notre roi préféré. Nous avons parlé de séries, de seul en scène, nous parlerons de musique et de cinéma. Et aujourd'hui, il sera question de BD, puisque oui, Alexandre scénarise également des BD. Tiens, il ne les dessine pas ? Non, c'est vrai, mais il pourrait, s'il ne souffrait d'une dysmorphie fonctionnelle du pouce droit qui l'oblige à peindre de la bouche, ce qui donne certes des résultats intéressants, mais arrangé plutôt du côté de l'art brut que de la ligne claire. Mais enfin bon, il écrit des BD et aussi des films d'animation, et c'est autour du 9e art que nous allons tourner aujourd'hui, en attendant que la fantaisie lui prenne d'en créer un 10e. Ah non, on me signale qu'il existe déjà et qu'il s'agit du jeu vidéo et qu'il a joué dans Mass Effect Andromeda. Bon, enfin voilà, vous l'aurez compris, ce qu'on appelle un touche-à-tout, on ajoute généralement de génie, un personnage de conte, comme on en croise rarement dans la réalité. Et d'ailleurs, si c'était un personnage de conte, ce serait Blanche-Neige, vu qu'en plus, il a 7 nains. D'ailleurs, c'est peut-être pour leur donner quelque chose à lire qu'il fait de la BD Popopop en ce mercredi 30 juin de cette année pleine de bulles. C'est parti. France Inter.
Popopop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Alexandre Astier.
Bonjour Antoine.
C'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes plus présent dans Popopop que moi.
Non. Mais je sais pas si la direction de France Inter est pas en train de me faire discrètement reprendre la boutique. Non, il n'y a pas ça.
C'est une drôle d'impression, oui. Bon, à nos côtés, celle qui a le nom de la couleur de cheveux de la reine Guenièvre. Bonjour, Charline Roux.
J'ai pas compris cette phrase, Antoine.
Celle qui a le nom de la couleur de cheveux de la reine Guenièvre.
Ah ouais, d'accord, ok. Oh. Je l'ai. Bonjour. Voilà.
Bonjour. Alexandre, je sais que vous devez tenter de retirer la légendaire épée de la maison ronde, plantée dans la roche des formulaires administratifs. Donc je vais vous laisser tenter votre chance avant de nous rejoindre en seconde partie d'émission pour nous dire si vous avez réussi et causé BD. Et pendant ce temps-là, je vous propose une plongée au cœur de l'univers de ce monsieur.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphant, ce n'est pas assez orgueilleux, de l'orgueil, bon sang.
Bon sang. Louis de Funès, car je reçois dans un instant Alain Kruger, le commissaire de l'Expo consacré à l'acteur à la Cinémathèque. Alors je sais que c'est un homme qui compte beaucoup pour vous, au point de lui avoir dédié la série Kaamelott.
Absolument. Absolument. C'est une figure chez moi. Ma maman, mon papa, ils sont acteurs. Et j'avoue que, surtout ma mère m'a appris le métier beaucoup en observant de Funès. C'est une très grande admiratrice de la technique de Funès, ouais, des ruptures de Funès, de la virtuosité de Funès. Et de Funès, au-delà d'être un virtuose, c'est un virtuose dont on peut tirer, bien modestement, quelques écoles.
Est-ce
qu'on
peut dire que Louis de Funès a servi presque de modèle à Arthur Pendragon ?
Totalement dans le rythme. Mm-hmm. Totalement dans le rythme. Et par exemple, ça a été jusqu'à, à mon avis, ça a été jusqu'à me faire rendre très amoureux du jeu d'acteur d'Anne Girouard. Ouais. Parce que je sais que elle et moi, il y a quelque chose de bon. Encore une fois, il n'y a pas d'imitation, bien entendu, mais je pense que rythmiquement, il y a une complémentarité que j'ai pu moi-même adorer. En regardant probablement de Funès et Jean Sac, il y a quelque chose qui, c'est un rêve pour moi, c'est une espèce de truc à atteindre, quoi. Donc c'est sûr que je suis hyper influencé. Et puis de toute façon, même en tant que comédien, quand je commence à me dire merde, je sais pas ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, généralement je me dis, il aurait fait quoi lui ? Il serait passé par où là ? Et des fois, de temps en temps, ça me sort du pétrin.
Et vous avez même placé ce thème dans le générique final de la série. Le thème du film Joe, réalisé par Jean Giraud.
Absolument.
Ah, vous voyez ?
Et ça, c'est orchestré par Raymond Lefebvre, qui est mon préf. Raymond Lefebvre, c'est mon préf en France. C'est un compositeur complètement dingue qui a cette espèce de qui ose ces thèmes-là très fort, super balèze qu'on peut se remémorer, et pour autant il vampirise pas le film, c'est-à-dire qu'il donne au contraire, il donne une espèce de touche comme ça un peu rock pop mais quand même orchestrale. Avec une grande connaissance de l'arrangement, une grande connaissance de l'orchestration, un mec très élégant. C'est vraiment j'adore Raymond Lefebvre.
Louis de Funès, on va continuer à en parler dans un instant avec Alain Kruger qui nous rejoint juste après un morceau indissociable du gendarme.
Un vieux blue jean suffit pour
Saint-Tropez. C'est une première sur France Inter depuis la création de la Maison de la Radio, inaugurée, je le rappelle, par le général de Gaulle. Mais une musique qui nous plonge immédiatement dans l'ambiance. Bonjour Alain Kruger.
Bonjour.
Car oui, aujourd'hui nous parlons de...
Comment vous appelez-vous ?
Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau.
Victor Pivert. Alexandre Astier nous confiait à l'instant avoir été biberonné à Louis de Funès. Est-ce que ça a été aussi votre cas, Alain ?
Eh bien, je dois avouer que vu mon grand âge, oui, absolument.
Alors, tout de suite, question compliquée, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Votre de Funès préféré ?
Ah, c'est compliqué, oui, ça, effectivement. Parce qu'il y en a beaucoup, je dirais. Il y a tous les houris, qui sont vraiment... essentiel. Il y a les deux films de Serge Corbère qui sont vraiment très singuliers. L'homme orchestre est sur un arbre perché. Et puis, il y en a que j'aime particulièrement, qui a deux titres. Il s'appelle soit Le Grand Seigneur, mais son vrai titre, c'est Les Bons Vivants. Ouais. Et c'est juste un sketch écrit par Michel Audiard, réalisé par Georges Lautner, et qui est vraiment un film très incroyable, parce que dans ce film, il est un agent d'assurance qui va se transformer en tenancier de maison close, mais il ne s'en est pas rendu compte.
Comment s'appelait celui où il jouait un garde-chasse qui avait un chien qui s'appelait Foulcan ?
Ni vu ni connu.
Ni vu,
mais
ni
il joue
connu.
Pas un garde-chasse. Le garde-chasse, il le joue dans
le
Poisson d'Avril. Et là, il joue le méchant, au contraire.
Ah oui, vous avez raison. Et son chien s'appelait Foulcan, il lui disait
bien
Foulcan.
Ici, Foulcan.
Bien ici, Foulcan. Foulcan.
Mais je vois que j'ai donc affaire à un expert, c'était juste un
pas,
petit
pas
coup
vraiment,
pour vous
mais enfin bon.
À l'épreuve. Alain Kruger, vous êtes le commissaire de la grande exposition que consacre la Cinémathèque française à cet acteur devenu le plus populaire des comiques français, de Funès. Question simple, enfin. Il était temps, quoi.
Enfin, c'est vrai, ça fait très 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 longtemps que je rêve de faire rentrer ce monument du cinéma dans cette institution extrêmement vénérable, et je suis très heureux qu'il y soit enfin.
Et pourquoi a-t-on attendu si longtemps ?
Je ne sais pas, parce que les gens sont timides, c'est-à-dire peut-être que d'abord c'est la première fois qu'il y a un acteur qui est dans cette maison, et puis c'est vrai que il y avait peut-être des petites rétentions il y a longtemps, et elles sont levées depuis maintenant.
C'est-à-dire qu'il était synonyme de cinéma populaire, enfin d'autres choses, d'un autre cinéma que celui que défendait la Cinémathèque.
Écoutez, Henri Langlois disait qu'il fallait tout voir. Je suis très heureux qu'on voit, parce que il y a eu aussi de grandes rétrospectives où on a pu voir quasiment, pas tous les films, mais énormément de films de Louis de Funès.
Alors il dirait quoi Louis-Germain David de Funès de Galarza en découvrant que la Cinémathèque, ce monument du cinéma français qui a accueilli les plus grands, lui consacre une expo. Il dirait... Ça serait ça son commentaire.
Je sais pas, il dirait... Il dirait, il était temps, je sais pas, je pense que c'était quelqu'un de très modeste, qui avait à la fois, c'était un énorme travailleur, c'était un homme qui n'arrêtait pas de perfectionner son jeu, un petit peu comme ces acteurs de la Commedia dell'arte, c'était un acteur qui travaillait son personnage, qui l'enrichissait minute après minute, film après film, et qui réglait ses gestes et ses intonations de façon assez musicale. C'était un musicien, oui.
La reconnaissance de ses pairs, parlons-en, puisque quoique reconnu comme le plus grand, Louis de Funès a été assez peu récompensé. Est-ce qu'il souffrait de ce gap entre succès populaire et reconnaissance professionnelle ?
Écoutez, je crois que quand il a eu son César et quand Jerry Lewis lui a roulé une gigantesque pelle en lui donnant ce César, il était déjà très fatigué, très, très malade, mais il était forcément ému, tout comme quand il a reçu la Légion d'honneur des mains de son ami Gérard Houry. Enfin, c'est toujours pareil, c'est un autodidacte, donc la reconnaissance des pairs et la reconnaissance tout court de la République, c'est forcément un honneur.
Alexandre Astier, qui est notre invité d'honneur cette semaine dans Pop Pop Pop, expliquait l'importance de Funès dans son parcours et dans la création de ses personnages au point de lui dédier la série Kaamelott. Bertrand Burgala expliquait ici même il y a quelques jours avoir appelé son label de musique Tricatel en référence à l'usine de l'industriel du film L'aile ou la cuisse. Pourquoi influence-t-il encore la pop culture aujourd'hui, presque 40 ans après sa disparition, Alain Kruger ?
Parce que de Funès, il est extrêmement pop, pop, pop. Il n'y a pas plus, c'est-à-dire dans le rythme, dans le tempo, dans l'attitude, dans le geste. Et c'est un danseur. Vous remarquerez, il marche comme un danseur. Ouais. Et c'est pas par, pour compenser sa petite taille. Au contraire, il est sur la pointe des pieds avec une grâce. Il n'y a jamais une once de vulgarité dans le jeu de Louis de Funès. Mm-hmm. Il peut dire les pires trucs. Il est tout le temps d'une élégance.
Oui, mais cette influence qu'il continue à avoir, à exercer.
Mais parce que cette influence, elle infuse sur maintenant quasiment 5 générations. Mm-hmm. C'est que moi, mes grands-parents voyaient de Funès, mes enfants voient de Funès, et ma petite-fille, Olympe, me demande de voir des films de Louis de Funès.
Ouais, c'est le Mick Jagger de la comédie, quoi.
Ben voilà, ouais. c'est un peu ça, avec la même allure, le même
énergie,
look.
Ouais.
Et Alexandre Astier, qui a un autre point commun avec Louis de Funès, il est musicien. En quoi est-ce que cette pratique a influé sur son art du jeu?
Ben, moi, je crois que justement, c'est absolument essentiel. Mmh. Parce que c'est la musicalité du jeu de Funès qui fait son originalité. Ouais. Et je crois que c'est justement son tempo qui le rend intemporel. Mmh. Parce qu'il joue tellement vite. Il accélère. C'est marrant parce que les réalisateurs de comédie disent toujours de jouer plus vite, plus vite, plus vite. Et on le sent parce que chez De Funès, il y a cette espèce de sens du rythme magique qui fait qu'il impose un tempo original.
Et alors Alexandre Astier, encore, a aussi été influencé par les dialogues de Michel Audiard. Audiard de Funès, très civilement comment. Et pourtant, Michel Audiard a dit « J'ai beaucoup travaillé pour Louis au début de sa carrière et j'ai cessé quand il est devenu une star. » C'est lié à quoi? Incompatibilité d'humeur ou de style?
Non, ils étaient très copains. Ouais. Ils descendaient tous les deux dans le même hôtel, l'hôtel de la Trémouille, près du théâtre des Champs-Élysées où jouait de Funès à Nouilles. Ils étaient très copains. Simplement, le verbe très précis de Michel Audiard, dont Monsieur De Caune est un grand spécialiste, ce mot est Audiard ne supportait pas qu'on touche à ses textes. Mmh. Et de Funès...
Ça me rappelle quelqu'un. Alexandre Astier.
Bah ouais.
Et de Funès ne supportait pas qu'on lui impose un verbe qui l'embarrassait. Donc, alors, il est extrêmement respectueux du texte de Molière dans l'Avare, mais c'est vrai qu'il était un peu encombré des mots des autres. Et d'ailleurs, quand Mylène de Mongeau, sa partenaire de Fantomas, lui demande de jouer dans Signé Furax, une adaptation de l'émission de radio géniale de Pierre Dac et Francis Blanche. Il dit « J'ai pris le texte en haine ». Il lui écrit « J'ai pris le texte en haine dans le cinéma comique ». Il rêvait de cinéma muet, donc les mots d'Audiard...
Alors, influence considérable de Funès, hein, 40 ans après, influence auprès d'un Alexandre Astier, notre invité cette semaine, mais aussi, par exemple, d'un Jim Carrey, qui n'était pas à ce micro la semaine dernière, notamment avec la tirade du nez du film Oscar. Alors quand je dis tirade, c'est dans le sens littéral du terme, tire sur le nez quoi. Et c'est donc Oscar qui aurait pu influencer l'acteur qui étrangement n'en a jamais reçu d'Oscar, Jim Carrey. À votre avis, Alain Kruger?
Ben c'est un peu la même histoire. Hein. C'est que c'est un peu honteux la comédie. Hein. Mmh. C'est un truc embarrassant, c'est un truc encombrant.
Pas noble.
C'est vrai pour moi. Il y a une vraie parenté entre Jim Carrey. Jim Carrey est un enfant. Pour moi, il y a un peu de deux enfants. Il y a Jim Carrey aux États-Unis et Benoît Poulvorde en Belgique, qui sont des vrais enfants de Louis de Funès. Ouais. Et Jim Carrey, il a aussi ce côté personnage de dessin animé. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont réels ou est-ce que ce sont des figures en élastique? On peut se poser la question.
Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque, dit de Funès « Tout a vieilli, sauf lui. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, encore de si moderne dans son jeu ?» Parce que vous le disiez vous-même, il y a très peu d'acteurs qui jouent aujourd'hui comme lui jouait.
Et je crois que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il est inimitable. Il y a aussi un acteur génial de la Comédie française qui est Christian Eck, qui a des gesticulations funésiennes, mais ou une actrice comme Valérie Lemercier qui peut jouer avec son corps comme de Funès, mais c'est vrai que c'est l'intérêt d'un personnage comme de Funès d'être inimitable.
Et Valérie Lemercier qui lui avait rendu hommage en ouverture des Césars avec la fameuse danse de Rabbi Jacob. Bon, Alain Kruger, je vous ai mis le chewing-gum de l'usine de Rabbi Jacob sous votre chaise pour que vous ne bougiez pas. Le temps d'écouter un morceau de cette époque-là, que dis-je, un hit, c'est Tom Jones, Delilah en 68.
Pop-up. Antoine de Paule.
Et Charline Roux. Et nous recevons aujourd'hui, dans cette semaine consacrée au roi Arthur, à Alexandre Astier, nous recevons Alain Kruger. Alors j'ai dit Alain Kruger depuis le début de l'émission, il m'a fait remarquer pendant Tom Jones que depuis 40 ans qu'on se connaît, j'avais l'habitude de l'appeler Alain Kruger, qui est la bonne prononciation. Donc nous recevons les deux. Alain
oui,
Kruger,
c'est mieux.
Hein,
c'est mieux.
Et Alain Kruger. Alain Kruger, on est là pour parler de cette expo Louis de Funès à la Cinémathèque française, métro Bercy, car la Cinémathèque est bien située à Paris, je la rappelle, et non pas à Lyon. Le gendarme, le petit baigneur, ma biche, la musique de Rabbi Jacob, on a tous un peu de Louis de Funès en nous. C'est ce que vous appelez les balises d'enfance. Est-ce que c'est ce que vous vouliez ramener à la surface avec cette expo, proposer une cure de jouvence aux visiteurs?
Oui, bien sûr, je crois qu'on a tous besoin, surtout en ce moment, de retrouver de la bonne humeur, mmh. Et que l'idée c'était à la fois de raconter une histoire de la France, l'histoire de la France des Trente Glorieuses, mmh. Qui fait rêver aujourd'hui, et essayer en même temps de raconter l'histoire d'un homme qui a monté les marches l'une après l'autre jusqu'au sommet du cinéma européen et on peut dire du cinéma mondial hors le monde anglo-saxon.
Il a une vraie notoriété.
Ah oui, je veux dire c'est encore une immense star dans tous les pays du bloc de l'ex-bloc communiste. Ouais. Dans l'Espagne du général Franco, dans la Grèce des colonels, Louis de Funès, c'est une star, peut-être aussi parce qu'il permettait de se moquer un peu des régimes en place, un peu de frais.
Était-il aisé d'être le partenaire de jeu ou la partenaire de jeu à l'écran d'une telle tornade ? Il a eu pas mal de grands partenaires, pour autant, est-ce que c'était facile d'exister dans une scène face à lui ?
Écoutez, je crois que justement, il avait énormément besoin de sa bande de copains, que Michel Galabru, de la Comédie française, à un moment donné, était un immense acteur, dire qu'il l'a prouvé dans le drame, avec Tavernier. Mais c'est, De Funès aimait jouer avec les gens qu'il connaissait bien. Il avait sa bande qui était issue essentiellement de la troupe des Branquignols de Robert Derry et Colette Brossé. Et il était en permanence en train de jouer avec cette famille-là. Je veux dire, un acteur comme Paul Prébois, le sublime Paul Prébois, est une espèce d'acteur fétiche qu'il promène de film en film. Parce que, c'est-à-dire qu'il est tellement important au bout d'un moment qu'il décide quasiment de tout. Même de la cantinière, du studio où on va développer, on va tourner le film, et du laboratoire où on va tirer les copies. Enfin, dire c'est devenu une espèce de d'ogre à sa façon.
Ouais, ouais. Vous le disiez il y a quelques instants, Alain Kruger, ex-Kruger, Louis de Funès serait peut-être le remède à ce qu'on a appelé ici une année de merde, et il l'a récemment prouvé en réunissant 5 millions de téléspectateurs pendant le confinement en plein après-midi avec la diffusion de La Grande Vadrouille pour, je pense, la 647 millième fois à la télé. De Funès, c'est plus efficace que du Xanax.
Ah, moi, je suis contre les, en dehors des vins les plus naturels possibles. Mm-hmm. Je suis contre tout produit médicamenteux. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un excellent remède à la mélancolie, comme dirait Eva Mester.
Est-ce que vous êtes déjà amusé à confronter les réactions et perceptions du jeu de Funès en fonction des générations? Parce que vous le disiez, on a l'impression que ça marche quelle que soit la tranche d'âge. Est-ce que ça ne tiendrait pas au corps, peut-être, plus qu'au dialogue?
Ça tient indéniablement au corps, et ça tient à des espèces de bruits surgissant de ce corps. Parce que c'est vrai que les dialogues, on ne retient quasiment pas de dialogue. On retient bien sûr « Salomon, vous êtes juif » dans Rabbi Jacob. Mais sinon, c'est vrai que même Michel Audiard, dont vous parliez, qu'elle, retenait de Funès... allez-y Franco, mon général, adressé à De Funès, mais c'était pas un mot de Funès. Ouais. De Funès, il jouait simplement le général espagnol. Mais...
Alain Kruger, ici, chaque jour, nous demandons un son qui évoque la pop culture à nos invités. Et pour moi, si on me posait cette question, évidemment, ce qui ne sera jamais le cas, puisque j'anime cette émission.
Vous voulez que je vous la pose, la question ?
Oui, posez-la moi.
Oui. Quel son vous évoque la pop culture, Antoine de Caunes ?
Alors pour moi, ça serait ce mash-up de sons reconnaissables entre mille.
Alors ça, c'est l'ascenseur. Ça...
C'est ça, la pop culture.
Ah oui, oui.
Au sens populaire du terme. Oui.
Ah bah oui, c'est-à-dire que moi, je voulais que dès qu'on arrive à la Cinémathèque, dès l'ascenseur, on entende ce drôle d'animal, parce que c'est aussi un drôle d'animal de Funès. Mmh. Il a cette espèce de musicalité qui va chercher des sons un peu partout et qu'il les reproduit de façon assez magique. Alors, il fait très bien le poulet, ça c'est absolument indéniable, mais il fait toutes sortes d'animaux aussi étranges les uns que les autres.
Vous Antoine êtes... fait très bien la souris.
Oui. Oui, la petite souris qui parle.
Non, non, mais c'est ça, vous le dites très bien, on est accueillis par ces sons dans l'ascenseur, ensuite on arrive dans l'expo et il y a des bulles partout.
Oui.
Pourquoi ? Parce que c'était aussi un personnage de comics, de dessin animé.
C'est indéniablement un personnage de bande dessinée. Il aurait été, à mon avis, très ami avec Achille Talon, par exemple. Ouais. Et bon, c'est, il y avait Astérix, il y a De Funès, qui sont des personnages qui sont pas si loin l'un de l'autre.
Un très bon Joe Averell aussi, peut-être.
Oui, le fameux, bon, d'accord, vous enchaînez.
Who is no good?
Who is no good, ouais, carrément. Pour Alexandre Astier, encore lui, le talent de De Funès ne réside pas dans ses grimaces, mais dans le surnaturel de sa vitesse dans les ruptures. Vous avez parlé tout à l'heure, peut-être d'héritage chez des gens comme Le Mercier, chez Paul Vord, sur l'attitude. Mais est-ce que vous avez retrouvé ce style sonique, cette rapidité, cette précision chez d'autres acteurs aujourd'hui, sans parler du style global?
Non, mais Astier dit un truc vraiment important. Le surnaturel, ça introduit la métaphysique. Et De Funès, c'est un acteur tellement physique qu'il en devient métaphysique. Et je crois qu'il y a cette part aussi de spiritualité chez cet homme qui était très catholique, qui est importante aussi parce que il voit plus grand que lui. Et ça, je crois que c'est un des éléments aussi très importants dans son jeu.
Mais est-ce qu'il y a des acteurs que vous trouvez aussi rapides? Aussi bons dans l'art de la rupture?
Jim Carrey.
Oui, Jim Carrey, il a ça. Jim Carrey a ça. Il a cette espèce de délire, parce que Jim Carrey, il est absolument dément aussi. Il y a cette dimension entre le surnaturel et la folie qui est très intéressante.
Bah, je trouve que Pierre Niney, dans la comédie, par exemple, a cet art de la rupture très brut et cette rapidité, cette précision. Alors après, ça ne reste que mon avis, mais.
Il y a du Jardin aussi, qui est un acteur très plastique.
Bon, Alain Crugère, en tant que commissaire de cette exposition, vous avez reçu une demande particulière, une demande de visite de la part de l'Association des Naturistes de Paris, qui voulait rendre un hommage au maréchal des logis, chef Cruchot, qui les a tant traqués sur la plage de Pamplonne. Quelle a été votre réaction?
J'ai dit oui, à une condition, c'est que je sois moi-même en uniforme de gendarme. Je les ai accueillis en uniforme de gendarme et je n'avais comme seul outil qu'un sifflet que j'avais aussi exigé. Et donc j'ai beaucoup sifflé.
Il y a des photos?
Bien sûr, il y a des photos, il y a des preuves.
Les gestes barrières ont été respectés.
Les gestes barrières ont été bien entendu respectés.
Bien sûr. Nous pourrions parler pendant des heures et des heures de cette icône internationale pour savoir pourquoi nous l'aimons tant, mais c'est certainement vous, Alain Crugère, qui avez trouvé ce qui sera la conclusion de cette interview. À la question « Pourquoi aimons-nous quelqu'un qui est menteur, ronchon, égoïste, colérique, raciste, méprisant ?» vous répondez tout simplement « Parce que c'est nous, en pire. » Paf.
Paf.
Non, vous maintenez ?
Ah bah oui, je crois que c'est très facile.
C'est un miroir, en fait, que nous renvoie.
C'est un miroir agréablement déformant, ou aussi assez... C'est inquiétant de nous-mêmes, mais oui, c'est un miroir.
Une exposition à ne rater sous aucun prétexte, hein, elle est là jusqu'au 1er août. Je vous laisse le mot de la fin. Tiens, quelqu'un qui ne connaît pas De Funès ou qui ne le connaît que comme ça de loin par un ou deux films, donnez-lui une bonne raison d'aller visiter cette expo. Qu'est-ce qu'il va y trouver d'extraordinaire ?
Bah écoutez, il va y trouver des tonnes de madeleines qui sortent à peine du four, qui sentent bon la joie de vivre, qui sentent bon la France. Non, je crois que il n'y a pas une bonne raison, il y en a au moins une dizaine.
Une dizaine, bon, bah c'est pas mal. Merci Alain Crugère. Louis De Funès à la folie, cette expo est donc à voir.
Crugère ou Crugère ? Il va falloir trancher, Antoine.
Je garde Crugère pour la fin.
Mais oui, on garde Crugère pour la fin, bien sûr.
Bon, Crugère, tiens, c'est pas mal aussi, ça. Non,
oui,
ça vous va?
Ou Crug.
Ouais, Alain Cru, Louis De Funès à la folie. L'exposition est donc à voir à la Cinémathèque, tout nu ou non, hein, jusqu'au 1er août. Et c'est plus que recommandé, vous l'aurez compris, par Pop. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci pour votre accueil.
Alexandre Astier de retour dans Pop, et c'est normal, c'est une semaine spéciale Alexandre Astier, juste après Born to Die, un titre inédit extrait de Welcome to America, un album que le Kid de Minneapolis a enregistré en 2010 et qui sortira le 30 juillet. She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what.
when she lost her virginity. Now she's pimping every motto from New York to L.A. I ask her why she do that thing. She says it's always been that way.
Always been that.
Jump that jack, you might be next. If the driver cut mama's cake,
what the deal, Daddy?
And ask her what the deal is.
This is what she said.
Born to Die, c'est un morceau signé du prince Prince. Bon, mais assez parlé de prince, parlons de roi maintenant. Car oui, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture cette semaine de façon... Eh bien, de nous rejoindre Alexandre Astier, qui était parti tenter de retirer l'épée plantée dans les couloirs de la Maison Ronde. Mission accomplie.
Vous avez demandé l'autorisation de diffuser ces trucs-là ou pas? Parce que normalement, ça fait tomber un bon paquet de pognon à chaque fois.
Hein. Vous allez signer une petite décharge?
Je vais voir ça.
Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Aujourd'hui, on parle bulles, cases, aventures. Est-ce que vous êtes un grand consommateur de bandes dessinées? Et si oui, lesquelles, en dehors d'Astérix, que vous avez adapté, évidemment, pour le cinéma?
Je suis très consommateur de bandes dessinées de lignes claires et des bandes dessinées que lisait mon père. Pour moi, la bande dessinée intimement liée à l'enfance, tout le temps. Mmh. Parce que je lisais les Tintins sur ses vieux Tintins à lui, donc qui me restaient dans les mains si je faisais pas gaffe. Les Astérix, les Lucky Luke, donc beaucoup de Goscinny. Et puis, je suis un grand taré d'Achille Talon. Encore une
Greg.
Fois, ouais, avec ce langage complètement fou. Greg, je pense que c'est partie des gens qui nous apprennent que la totalité des personnages peut avoir une langue ultra sophistiquée. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit, genre chacun doit avoir sa façon de parler. Pas du tout, c'est pas vrai du tout. Au contraire, je pense qu'on peut uniformiser un niveau de langage global et c'est du grand génie, Greg.
Alors, une BD, c'est la vôtre, hein, je parle de la vôtre, écrite par vos soins et dessinée par Steven Dupré, déjà 9 tomes parus, mais alors, attendez, si je comprends bien, vous avez délégué le dessin.
Ben, figurez-vous que c'est très agréable la relation que j'ai avec Steven Dupré, ça fait maintenant j'ai plus de 10 ans, parce qu'en fait ce monsieur, déjà premièrement il est néerlandais, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'était Kaamelott quand il a commencé à travailler, je crois que maintenant il est expatrié en Espagne, on se voit quasiment jamais, mais on a cette espèce de binôme de solitaire, avec un S, qui fait qu'on se rend compte sur des trucs et qu'en fait il n'a jamais préjugé de Kaamelott. Moi je voulais quelque chose de réaliste, je voulais quelque chose d'épique, parce que je veux que la connerie, pardonnez-moi le mot, soit à l'intérieur, mais bien quand sûr. On regarde de dehors, il faut que ce soit très sérieux. Mmh. Et lui, c'était l'homme en or pour faire ça, et c'est vrai que c'est mon camarade de BD, je le croise rarement, de temps en temps chez Casterman à la maison mère, on se serre la main, on fait une dédicace de temps en temps à Angoulême, mais c'est mon compagnon de bande dessinée, et je lui envoie des scripts, je lui envoie des découpages, et puis il me dit tu préfères ci, tu préfères mi, et tac tac, et on avance, et c'est hyper hyper agréable de voir progresser comme ça une BD, et de l'avoir colorisée, et de la recevoir chez soi, et de l'ouvrir, je trouve ça encore, à bientôt le 10e tome, tout à fait magique.
La bande dessinée a été le tout premier moyen d'élargir l'univers Kaamelott en dehors de la série, puisque précisons pour ceux qui ne les auraient pas lus qu'elles sont en aucun cas une adaptation des histoires qui existent déjà dans la série, mais une aventure inédite par album. Alors pardon de cette question, mais votre imagination c'est une sorte de puits sans fond en fait. Vous n'avez jamais de panne, vous avez des...
Alors le truc c'est que on est d'accord que le monde de Kaamelott c'est pas simplement le monde de la geste arthurienne, c'est plutôt un monde héroïque fantasy type jeu de rôle, c'est-à-dire c'est une bible en gros avec des règles, avec son monde, sa géographie, sa politique, ses gens, sa façon de voyager, sa façon de manger, sa façon de dormir, en fait c'est un décor géant. Donc tous les types d'histoires sont éligibles à être dans Kaamelott. Les romances, les trucs d'aventure, les enquêtes, les énigmes, les trucs d'horreur. Il y a absolument aucune limite à ça.
Mais encore faut-il les inventer et les avoir en tête. C'est ça que je voulais dire.
Formalité, enfin Charles.
On va parler un peu sérieusement dans cette émission pour une fois. Je vais vous dire, le problème c'est jamais la pénurie d'idées. C'est jamais ça. C'est plutôt de faire le tri dans sa profusion d'idées. Ouais. Ça n'existe pas, les gens qui disent j'ai pas d'idées. Au contraire, vous passez votre temps à rencontrer vous n'avez pas d'idées. Qu'est-ce que vous lui avez fait à cette pauvre Charline pour qu'elle se désintéresse d'elle-même à ce point-là?
Mais c'est quand même fou. Comme ça.
Mais non, je la maltraite pas. Il y a des gens qui disent je serais bien incapable d'écrire quoi que ce soit sur.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
Je trouve ça fabuleux, les gens qui ont des histoires à raconter.
Moi, je pense que vous subissez une mauvaise influence, certainement sur votre gauche, là-bas, de quelqu'un qui est étouffant. Il est étouffant, parce que voilà.
Kaamelott, la BD, c'est l'histoire, hein, comme dans la scène du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde, mais avec un aspect plus héroïque, fantasy, les mots que vous citiez à l'instant, et c'est surtout le moyen de repousser les frontières, parce qu'il n'y en a pas, ou peu, comparé à la série.
Oui, alors, en plus de ça, il y a quelque chose de très tranquille dans la philosophie de la BD, c'est que toute la série parle des quêtes qui sont là pour anoblir les chevaliers, pour prouver qu'ils ont de la valeur, tout ça. On ne fait souvent qu'en parler, et vous savez de quoi je cause, monsieur Decaune, vous avez déjà été autour de cette table ronde en train de nous narrer une aventure qui n'en était finalement pas tant une que ça.
Qui n'est pas si passionnante non plus.
Non, qui n'est pas si passionnante non plus. Donc du coup, la BD, son rôle, c'est de montrer ces aventures, c'est d'y aller. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un épisode où Perceval et Caradoc disent qu'ils reviennent du lac de l'ombre, où ils ont vu le serpent géant. Ils ne font que le raconter et dire qu'ils ont chopé un petit truc comme ça sur le bord de la rivière. Et ben il y a un album qui s'occupe de ça. Il y a un album qui s'occupe de leur péripétie, de leur périple avec le monstre, on le voit. Donc ça, c'est propre à l'épique, puisque ce sont des aventures uniques qui ont un début et une fin en un album, et qui correspondent dans la série à l'époque où le conflit avec Lancelot n'a pas encore véritablement démarré, et où le feuilletonnant n'a pas encore démarré vraiment.
Mais si en ce qui me concerne vous faisiez allusion au bocal d'anchois, je peux vous dire qu'il m'a poursuivi pendant très longtemps quand même. Et je vous en remercie, Jean, je profite de l'occasion. Je profite.
Mais par exemple, ça prend quelle forme? Quand on vous parle de quoi? On vous demande quoi?
Bocal d'anchois, je suis assez associé aux anchois maintenant. Ça vous, Alexandre Astier?
Je l'avais mal senti comme ça, oui. Si j'avais su, ce serait à refaire, je ferais autre chose.
Mais vous le disiez, les temporalités du film, de la série et de la BD sont différentes, les personnages varient. Comment est-ce que vous faites pour vous y retrouver? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un trombinoscope de tous les personnages? Linéaire pour vous y retrouver?
C'est vrai qu'il y a la saga. La saga, c'est série-film. Un film avec un S, je l'espère. Tout le reste, effectivement, ça fait très attention à ne pas mettre un pied dans la saga. Et au contraire, à rester dans une époque. Et à exploiter cette époque-là sans que les gros conflits de la saga viennent perturber les choses. Ça raconte plutôt le quotidien qui est moins grave et qui se situe plus en petites aventures. Et effectivement, maintenant, il y a plus de 200 personnages, si je compte évidemment les gens qui sont venus nous voir une seule fois comme ça, ou les gens qui restent. Et puis les arbres généalogiques aussi grandissent. Avec le film, par exemple, on apprend qu'il y en a qui ont des enfants dont on n'avait pas parlé, ou des frères, ou des sœurs, etc. Donc, pour le moment, ça va, mais je me retrouve quand même, je l'avoue, dans la situation d'être en train d'écrire la suite et de jeter un petit coup d'œil à Wikipédia de temps en temps, parce que je me dis, mais non, mais j'en avais parlé de ça ou pas et...
Vous avez le grand mur, là, comme dans les enquêtes policières, avec les épingles et tout,
et je vais y m'y mettre.
J'imagine très bien ça. Bon, alors, Alexandre Astier, je vous dis ça, Charline, pour que vous sachiez à qui nous avons affaire aujourd'hui. Vous êtes donc à l'origine du monde de Kaamelott, vous en êtes le responsable principal, mais après le succès de la série, on vous avait proposé une adaptation en BD, mais vous l'avez trouvée mauvaise, et vous avez donc décidé de l'adapter vous-même. Ça veut dire que quand vous n'aimez pas quelque chose, vous le faites vous.
C'est un peu compliqué.
Ça revient, ça.
Non, mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, non, mais on m'avait aussi... parce que ça existait déjà à l'époque des adaptations de séries, des adaptations même d'humoristes qui. Et en fait, ça donnait du planche à planche. Ça donnait des trucs un peu gaguesques, un peu machin, qui pour moi sont vraiment du consommé vite fait, quoi. J'ai rien contre les gens. Si les gens aiment bien ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, BD, en rapport à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, vu que c'est une référence d'enfant, une référence de rêve, une référence d'aventure, je me dis, c'est quand même trop bête qu'on me propose de faire de la BD et que je sois obligé de rester sur le seuil de ce truc-là sans jamais y rentrer sous prétexte que c'est de la comédie. Alors j'ai dit, OK pour la BD, mais allons chez Casterman, proposons-leur et puis faisons une BD. Des lignes claires, franco-belges, avec une aventure par album, et puis allons-y, quoi.
Est-ce que vous avez eu des retours de vos comédiens sur leur version dessinée? Et d'ailleurs, vous, quel effet ça vous a fait de vous voir en version papier? Ça va être un truc quand même quand on est fan de BD.
C'est pas mal. Moi, je suis plutôt bien servi, et je suis plutôt mieux foutu à la BD qu'en vrai. C'est pas le cas de mon père. Je pense que mon père, à mon avis, pour le différencier de moi, il a pris 15 ou 20 kilos quand même. Parce qu'on doit avoir un peu les mêmes traits BDS, que j'imagine. Donc, voilà. Jean-Christophe Ambert ne s'est pas plaint pour le moment, bien qu'il soit souvent taché de gras dans la BD. Il a souvent mal bouffé. C'est un trait pas violent, mais c'est un trait un peu dur. Donc, il est pas forcément à l'avantage des gens, mais c'est mieux comme ça. Ça nous fait ça nous fait des gueules, ça nous fait un monde un petit peu, hachuré, patiné.
Alexandre, vous allez me dire que je saute du coq à l'âne?
Non.
Mais je vais le faire quand même, parce que...
Vous sautez du coq à l'âne, Antoine?
Oui, je voudrais vous poser une question. Que donneraient les Daft Punk dans l'univers de Kaamelott?
Je me débrouillerais pour qu'on voit pas leurs yeux, parce que j'imagine que ils y tiennent. Y a plein de façons dans le médiéval fantastique de pas voir les yeux.
Alors, j'ai un début de réponse, parce que des internautes ont imaginé le duo casqué à l'époque médiévale. Écoutez. Ici, on aura tous reconnu Get Lucky, ça s'appelle le Bard Core. Je peux avoir un avis d'expert?
C'est pas mal, je trouve que ça gagnerait... J'ai une proposition, hein. Ça gagnerait en bordel. Ça gagnerait à être un petit peu moins... Le tempo un peu moins carré, et peut-être les notes un poil plus fausses. Et peut-être... il faut imaginer un groupe un peu médiévalisant comme ça, avec un mec qui sait moins bien jouer. Moi, je le fais, par exemple, j'enregistre les musiques de mes tavernes, ou de, par exemple, du marché. Je viens d'enregistrer une musique de marché. Donc je l'ai fait au low whistle, je l'ai fait au tambourin, je l'ai fait à la peau, et je l'ai fait. Et du coup, je me débrouille toujours. Je me dis, t'enregistres, tu mets le truc pour ta piste, et si jamais tu te plantes, eh ben, tu le refais pas. Tu gardes le truc un peu naze comme ça, tu gardes la fausse note, tu gardes tout, et du coup, ça met un petit peu de... Comment dire? On a l'impression qu'il y a un groupe un peu... Vous savez, quand vous... Ce genre de groupe dans une pizzeria où vous n'avez pas envie d'entendre un groupe, par exemple, et vous avez envie de manger une pizza. ce genre de truc-là.
Ça ne vous emballe pas, Alexandre?
J'ai pas dit que ça m'emballait pas, j'ai dit que j'ai trouvé ça propre.
Bon, peu importe, cette émission reste la mienne. Je vous propose de terminer cette émission avec une Billie Eilish époque médiévale, avec son Bad Guy, qui était très 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 loin d'avoir vu le jour à l'époque.
Un duel.
Now red my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises
with really rough guy. Just can't get enough guy. Just always a buff guy. I'm the bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm the bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend that type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Bad Guy, version Badcore, c'est une version proposée par The Miracle Aligner sur YouTube et je vous invite à aller découvrir tous les classiques de la pop culture dans ces versions médiévales. Voilà. Bon, alors, je ressaute, j'étais passé du coq à l'âne, je reviens.
Ça fera peut-être trouver une troisième bestiole, non, histoire
non,
de...
Non, je reviens de l'âne sur le coq. Le coq, c'est un coq assez résistant. Et nous reparlons un peu de BD, parce que pour le moment, 9 tomes sont disponibles, mais je sais qu'un 10e tome est annoncé, Caradoc et Lycocèdre. Ce que nous ne savons pas, c'est sa date de sortie, ni ce que c'est qu'un Lycocèdre. Voulez-vous nous faire une annonce royale, Alexandre?
Alors, sa date de sortie, je ne l'ai pas non plus, j'ai pas fini. Mmh, ouais, mais un icosaèdre, c'est un volume à 20 faces. Et c'est un petit peu un hommage au fameux dé à jouer à 20 faces qui peuple les tables de jeux de rôle, puisque c'est un très joli dé déjà, et qu'on s'en sert pour jouer, pour marquer des scores et pour se battre contre des monstres divers.
Donc ça existe.
Un icosaèdre, ouais. Oui, bien sûr, numéroté de 1 à 20.
On joue avec.
Et on joue avec. En fait, les dés de jeu de rôle, c'est pas compliqué. Vous avez un dé à 4 faces, vous avez un dé à 6, vous avez un dé à 8, vous avez un dé à 10 accompagné d'un dé de centaines, comme ça vous pouvez faire un dé de 100 avec les deux. Ouais. Vous avez un dé de 12 et un dé de 20.
Bien, un icosaèdre donc.
Est-ce que vous savez si le lectorat de la bande dessinée est sensiblement le même que le public de la série? Parce que la BD est parfois peut-être un peu, je ne veux pas dire plus sombre, mais va peut-être plus loin que ce à quoi le public de la télévision est habitué.
Je crois qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien lire les BD avec une très forte référence des voix qui remplacent. Par exemple, la voix de Monsieur Decaune, à mon avis, les gens l'ont bien en tête. Hein,
Pas aujourd'hui, parce que c'est surtout vous qu'on entend.
Absolument, et je m'en excuse.
En même temps, je vous ai invité, donc je ne vais pas sans arrêt.
Absolument. Mais du coup, voilà, il y a ça. Mais il y a aussi, je pense, des gens qui aiment la BD pour la BD et qui aiment collectionner les objets BD et qui eux, considèrent le format comme presque plus intéressant que la série ou tout ça.
Les acteurs disent, quand on bosse avec Astier, il est à la virgule près. Que disent les personnages de BD quand ils travaillent avec vous?
Les personnages de BD, quand ils travaillent avec moi, ils se plaignent parce qu'ils ont moins de gros mots. J'avoue que je mets moins de gros mots.
Pourquoi?
Parce que je trouve que le gros mot est plus violent à lire qu'à entendre, et que du coup, il fait souvent beaucoup plus vulgaire que ce que je ne voudrais quand il est imprimé. Donc je me méfie de ça. D'ailleurs, je m'en suis méfié pour les affiches du film, là, ces petites affiches qui reprennent des trucs, parce que il faut sorti de son contexte, sans le ton que les acteurs peuvent y mettre, ça devient des fois un peu brutal comme ça, alors que ça l'est pas dans le dans le déroulé d'une série. Donc voilà, ils peuvent se plaindre d'avoir un langage un tout petit peu moins chargé.
Mais en dehors des grossièretés, comment est-ce que le lexique et les expressions typiques de Kaamelott s'accommodent avec la narration et les dialogues de BD? Parce que en dehors de ça, ça semble quand même très compatible.
Alors au début, je mettais la première BD que j'ai écrite, je m'inquiétais beaucoup du fait de d'habitude être très verbeux. J'ai une habitude de faire parler les gens beaucoup, même souvent pour rien dire. Mais du coup, je me disais, ça va être assez indigeste en BD. Et en fait, depuis que j'en fais et depuis que les tomes se succèdent, je me suis vraiment calmé avec ça et je charge à mort et ça fait des bulles absolument indigestes. Sauf que maintenant, à mon âge, j'en ai plus rien à secouer et que je fais parler les gars de BD, mais à mort, à mort, à mort. Et j'aime beaucoup ça. Surtout qu'il y a des, parce qu'on vous a dessiné, hein, Monsieur de Cône. Ça, je sais pas si vous étiez au courant, mais vous êtes dessiné dans les bandes dessinées avec Monsieur Rollin. Bon, on en parlera quand vous voulez.
Privé.
Voilà. Et vous êtes avec Monsieur Rollin, et c'est vrai que c'est un grand plaisir de faire. Mais on parlait de Greg tout à l'heure. Ouais. Greg est une autorisation au petit scénariste de BD que je suis à dire, gars, si t'as envie de faire parler tes mecs, fais parler tes mecs. Où est le problème?
Je reviens toujours à cette virgule, hein, avec laquelle vous tracassez tant vos comédiens. Je sais que vous vous passionnez aussi pour le bon usage de la ponctuation. Expliquez-nous cette passion pour une ponctuation, alors que je viens de faire une phrase qui s'en passe elle-même.
Ah bah, oui. Alors, je suis passionné par la ponctuation, je suis passionné par la typographie, je suis passionné par la lettre et son usage. Et donc, du coup, effectivement, même sur ordinateur, par exemple, j'ai appris à écrire en BEPO. C'est ce que c'est le BEPO?
Non.
Le BEPO, c'est une disposition de lettres. Voilà, on dit deux mots du BEPO.
Ah, c'est le moment jamais. Alors, c'est la minute de gloire du BEPO.
Absolument. Même. Donc, nous écrivons en AZERTY. Un AZERTY qui est un héritage du QWERTY.
Oui.
Le QWERTY qui est anglo-saxon. Et dont les dispositions des lettres ne sont là que pour éviter que les petits bras des machines à écrire ne viennent s'entremêler. Donc, c'est vraiment que fait pour ça.
Ouais.
Donc, c'est pour des machines à écrire qui n'existent plus et qui vient d'une langue qui n'est pas la nôtre. Mmh. Donc, l'AZERTY est une hérésie pour nous.
Mais le BEPO?
Il y a un point qu'il faut mettre avec le majuscule, le machin, n'importe quoi. Le BEPO, ça nous tombe sous les doigts. C'est fait pour le français. Toutes les choses sont accessibles. Nos accents, le point, la virgule, le point virgule, etc. La fameuse espace insécable, puisque c'est féminin en typographie, qu'il faut mettre avant deux points, avant point virgule, avant point d'interrogation et point d'exclamation, ce que font pas les anglo-saxons. Et tout ça, sans regarder vos doigts.
Pourquoi ne sommes-nous pas tous équipés de BEPO?
C'est une erreur. L'AFNOR l'a validé. Maintenant, il faut.
C'est-à-dire que les lettres se présentent comme dans l'alphabet, vous voulez dire?
Pas du tout. Ça commence par BEPO.
Alors, du coup, c'est encore un autre.
C'est-à-dire que vous placez vos deux petits doigts. Vous remarquerez sur vos claviers, vous avez deux touches qui ont un petit picot.
Oui.
Ça, c'est pour les index.
Oui.
Après, vous étalez vos doigts naturellement à côté.
Ouais.
Ça, c'est la position normale du BEPO. Et après, vous mémorisez les choses. Sur le site de BEPO, il y a des exercices et des machins et des trucs. Et puis, vous n'avez qu'à étirer les doigts sans jamais regarder. Ça veut dire que vous pouvez écrire le BEPO sur n'importe quel clavier, un AZERTY, un QWERTY, n'importe quoi. Et là, vous gagnez en vitesse, vous gagnez en ergonomie, vous n'avez plus jamais de crampes, vous pouvez quasiment parler, écrire à la vitesse à laquelle vous pensez et vous parlez. Et c'est fait pour le français, et c'est fait pour le code aussi. Il faudrait qu'on passe tous à ça.
J'ai envie de dire vive le BEPO.
C'était l'instant BEPO.
Et le BEPO qui nous écoute,
absolument.
Sûr, oui.
S'il nous écoute, on le salue.
on le salue au passage. Bon, très bien, je crois que nous avons fait un petit tour de cette fameuse bande dessinée avec ces 9 tomes de Kaamelott et le 10e sur lequel vous êtes encore en train de travailler, qui arrivera donc, j'imagine, au début de l'année prochaine. Enfin, je ne veux pas non plus anticiper.
Vous savez bien ce que c'est.
Oui. ça sera pour le printemps. Bon, merci. Alexandre Astier.
Merci, monsieur Decaune.
C'est ici que s'achève cette édition consacrée à la BD avec Alexandre Astier, notre invité cette semaine, pour parler de la sortie de Kaamelott le 21 juillet. Rendez-vous demain avec un autre son. Celui de Jenny Beff, invité spécial de cette semaine, qu'il est tout autant en votre compagnie, mon cher Alexandre. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Pop. Merci Charline.
Merci Antoine.
Et
merci Alexandre.
Demain.
Merci à vous.
Et merci à toute l'équipe de Pop et à Pierre-Yves de Rolin qui était à la technique aujourd'hui.